La parole ne pourrait jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigueur littéraire de Enoch Guidjimet sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigueur littéraire.
La Vigueur littéraire. La Vigueur littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigueur littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éducation, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigueur littéraire de ce jeudi 30 avril 2026. J'ai souvent vu danser ta silhouette poétique dans l'écriture des médias. Je ne te connaissais pas assez, mais tu sais quoi, New York? J'ai appris à te faire confiance. J'ai appris à t'adopter très vite. En vérité, j'ignore tout de l'odeur du vent qui façonne tes mille visages intimes. Je n'ai qu'une vague d'idées de ta nudité en chaque saison. Pourtant, l'arôme de ton café ne me semble pas étrangère quand mon esprit s'élève vers toi. Et j'ai une bouffée d'assurance qui m'enveloppe comme de la muscade mélangée au velouté de tobacco. New York, il paraît que tu aimes les artistes au point de dessiner leur ombre sur un tableau privé. Ce jour, nous embarquons pour une traversée d'une rive à l'autre. Un livre à quatre mains, celle de Diane Degry et de Angelo Orekan, respectivement autrice française d'origine ivoirienne et auteur et scénariste béninois. Entre deux voix, deux souffles, deux rives qui se regardent et se répondent. D'une rive à l'autre, un livre de 128 pages, paru aux éditions Légende, est un pont entre les êtres, les cultures, les émotions. Que transporte-t-on quand on quitte une rive? C'est un voyage poétique que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Attachez vos ceintures de mots, on largue les amarres. Mais avant, nous allons suivre le cachet littéraire avec Nadia Podito.
Bonjour Enoch, ambassadeur des lettres et lecteur assidu, bonjour. Les mots nous rassemblent, nous interrogent et nous font voyager bien au-delà des pages. Pendant quelques instants, la littérature s'invite dans votre quotidien entre rencontres, réflexions et découvertes. Bienvenue dans votre rendez-vous, le cachet littéraire. À l'entame de ce panorama littéraire, intéressons-nous à une initiative portée par le Centre d'observation du discours pour l'éducation. Une rencontre littéraire est prévue autour de l'ouvrage « Pèlerin d'espérance dans le silence et la contemplation » paru aux éditions Légende du père Raymond Goudjo. Elle se tiendra vendredi 1er mai 2026 à 15h30 au siège du Côte à Wedo à Djagbo. Un moment de partage, de présentation d'ouvrage suivi d'une séance de dédicaces et d'échanges avec l'auteur. Dans une autre dynamique littéraire, le Centre Bénin Excellence de Godomé à Imevo va accueillir une rencontre d'auteurs le samedi 2 mai 2026 à 16h. L'ouvrage qui va servir du fil conducteur à cet échange est « La naissance de Fa, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère », signé du professeur Maoyon Kakou. À travers ce texte, l'auteur explore les profondeurs de la tradition et de la spiritualité africaine en interrogeant le mystère de la parole, de la naissance et du destin. Une œuvre qui puise dans l'univers du Fa pour proposer une réflexion entre l'héritage culturel et quête de sens. Un rendez-vous d'échange à ne pas manquer pour les amoureux des lettres et des savoirs endogènes. Et lorsque les mots s'ancrent dans la tradition, ils ouvrent aussi la voie à la profondeur de la foi. Un nouveau livre, mais hybride, s'annonce dans le paysage littéraire béninois. Il s'agit de « Dieu trace droit avec des courbes » signé Kodjo Rodrigue Abel à Savedo. Sa parution est prévue pour le 15 mai prochain aux éditions SM Plume. À travers cet ouvrage, l'auteur propose une réflexion sur les détours de la vie, montrant que même dans l'incertitude, un sens peut émerger. Un test porté par la foi qui invite à faire confiance malgré les épreuves. Une œuvre à découvrir. Après avoir évoqué la foi, pilier de la conviction, place à présent au talent, cette force qui révèle les capacités de l'être humain. À l'occasion de la 4e édition du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin 2026, prévu du 8 au 10 octobre prochain, plusieurs concours sont lancés à l'endroit des passionnés d'écriture et d'expression. Parmi eux, la grande dité nationale qui met à l'épreuve la maîtrise de la langue française française et célèbre l'amour des mots. Les inscriptions sont ouvertes et vont se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2026. D'autres concours, notamment de nouvelles et de langues, sont également proposés. Les inscriptions vont prendre fin le 31 août 2026. Une occasion à saisir pour tous ceux qui souhaitent exprimer leur talent. Ainsi se présente la charpente de votre cachet littéraire, votre escale au cœur des livres. Merci de votre fidèle écoute et que la magie des mots vous accompagne.
Merci Nadia pour ce travail, je l'avais annoncé. Parlerons de traversée, celle qu'on fait avec Diane Degris et Angelo Orican dans ce recueil de poésie. D'une rive à l'autre, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on trouve? Vous le saurez après ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducaction.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couvertures médiatiques.
Retour en studio pour nous laisser emporter par le monde poétique de Diane Degris et de Angelo Orican. Ils sont respectivement autrices françaises d'origine ivoirienne et auteurs et scénaristes béninois. Alors, le monde entier a célébré le 23 avril passé la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une question d'actualité puisque nous parlerons de votre livre. L'enjeu du droit d'auteur à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est le thème de cette édition. Orican, bonjour.
Bonjour, monsieur Enoch.
Comment vous allez?
Je vais très bien, vous?
Ça va très bien. Diane, bonjour.
Bonjour, monsieur Enoch.
Comment vous allez?
Très bien.
Et le voyage?
Long, mais agréable, ça va, ça a été.
Alors, je viens d'annoncer le thème de cette édition-là. Orican,
oui.
Que pensez-vous de cette thématique-là? L'enjeu du droit d'auteur à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous êtes auteur?
Oui, et scénariste. Et c'est une question cruciale qui est sujet à débat depuis plusieurs moments. Déjà, les scénaristes à New York, aux États-Unis, ils ont protesté parce que aujourd'hui, c'est comme si le droit d'auteur est menacé avec l'ère numérique, avec l'IA qui aujourd'hui connaît une grande ascension et qui s'impose presque en tout et devient indispensable. Du coup, beaucoup d'auteurs se posent la question, est-ce que je pourrais continuer d'exister si l'IA continue cette progression-là?
Et vous pensez que vous allez continuer d'exister là avec la progression de l'IA, Diane?
Je pense qu'on va continuer d'exister parce que il y a quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans les technologies, c'est l'âme, l'esprit des mots. Et j'ai la conviction que lorsqu'on lit un poème, un roman ou qu'importe quel type de littérature, on ressent quelque chose. On ressent vraiment l'intention de l'auteur. Et ça, je pense que aucune machine ne peut nous l'apporter. Donc,
Mais l'IA met à notre disposition des mots, des expressions qui fascinent, qui attirent.
Oui, mais ce n'est pas, c'est une intelligence artificielle et pas une intelligence humaine. Donc, les mots ne seront jamais celles de l'esprit d'un auteur.
Alors, Orican,
oui.
J'ai le sentiment que vous revendiquez votre souche. Quelle Afrique, quand je lis ce livre que vous avez coécrit avec Diane Degris.
Bien sûr. D'une rive à l'autre. Oui, c'est une revendication, quelque chose qu'on assume. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais ajouter de plus. C'est effectivement une revendication de l'identité. Ce qu'on est, ne pas avoir honte de s'affirmer qui on est et porter ce qu'on est vers l'autre, aller vers l'autre avec ce qu'on a et qui est original, qui fait de vous unique. Voilà.
Alors, mais comment peut-on apprécier ce désir ardent de reconnaître cette Afrique-là?
Alors, je suis de la diaspora, donc ivoirienne, j'ai grandi en Europe. Donc, pour nous, à un moment, on est obligé de retourner un peu vers nos racines. C'est notre seul moyen d'exister en tant que personne entière, on va dire, parce qu'on grandit. On vit dans un environnement vraiment multiculturel et à un moment, revendiquer, aller chercher son Afrique, ça devient une quête existentielle qui est indispensable, je pense, à toutes les personnes de la diaspora. Et c'est au-delà de la question du retour physique, c'est d'abord un retour intérieur et ce retour intérieur, c'est vraiment intégrer qui l'on est et nos racines.
Justement, j'ai comme l'impression que même en Europe, vous sentez l'odeur de cette Afrique-là, oui. Sa terre, sa culture, ode à la terre morte. Oui. Et vous dites, la terre rouge de ma mère a ravivé le secret du feu à moi.
Ouais, mais là, c'est pas vraiment depuis l'Europe parce que c'est mon premier voyage au Bénin qui a vraiment concrétisé, on va dire, qui a vraiment allumé la flamme de tout ce qu'il y avait en moi depuis longtemps et que j'écrivais un peu souvent, parfois j'ai honte de le dire, mais dans ce fantasme du retour où on pense, oui, retourner en Afrique, etc. Mais une fois qu'on le vit, ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique, c'est quelque chose d'intérieur et c'est vraiment cette expérience-là qui a été le on va dire, la genèse de cette initiative et de ce recueil. Donc effectivement, c'est ce feu, c'est vraiment ici.
C'est une flamme intérieure qu'on croyait éteinte.
Non, je veux pas dire qu'on croyait éteinte. On pensait qu'elle était allumée, mais en fait. Il y a un feu, il y a une manière de l'allumer, je pense, qu'on est obligé d'être ici et de le vivre et de faire l'expérience. On peut pas, on pense que cette flamme est allumée, qu'on est africaine, qu'on a tout ça, qu'on porte toute cette mémoire en nous. Mais quand on vient et qu'on vit vraiment cela, c'est une autre flamme qu'on saurait décrire et qui provoque ce type d'ouvrage, ce type de poème.
Votre écriture, Angelo, est contagieuse. J'ai ressenti dans les tests de Diane, une récurrence du mot Imolé. Est-ce un appel aux ancêtres?
Oui, Imolé, en langue yoruba, ça veut dire la lumière. Oui, regardez, c'est là qu'il revient, qu'on a tellement attendu, qu'on a tellement espéré, et qu'il revient sur cette terre. Elle reçoit comme une lumière tout ce qu'elle vit, son espérance qu'elle vient de dire. Il y a ce feu qui se déclenche.
Ah, donc vous parlez d'elle là?
Oui, je parle d'elle et à travers elle, je parle de toute la diaspora. Mmh. Ses frères et sœurs, avec qui nous sommes vraiment liés, même si on est séparés par des milliers de kilomètres, par les océans et autres. Mais on a toujours quelque chose d'intime et de très fort qui nous unit.
Voilà. Alors, vous êtes un clin d'œil au panégyrique clanique. Est-ce une manière de dire au lecteur que vous n'êtes pas déraciné?
Vous l'avez posé tout à l'heure. Je crois que, au-delà de prouver que je ne suis pas un déraciné, je crois que la meilleure chose qu'on a et qu'on puisse partager avec l'autre, c'est la culture, ce qui nous définit. Et le panégyrique étant une partie intégrante de notre identité en tant que Béninois, en tant qu'Africain, c'est venu tout naturellement. Pendant l'écriture, tout naturellement. Et ça s'est initié dans l'écriture, dans la progression.
Alors, Diane, nous sommes toujours avec l'ode à la terre morte. Je lis, j'incarnerai le goût sublime de l'appel du retour tardif. Mmh. De quel retour tardif vous parlez? Est-ce celui provoqué par les îles, la colonisation ou l'oubli?
Non, c'est le retour. Je parle du retour physique, parce que je suis venue pour la première fois en Afrique à 35 ans. Ah. Donc, c'est ce que j'appelle le retour tardif. C'est-à-dire que tout ce temps-là, l'Afrique était là, ce qu'on apprend de mes parents, ce qu'on m'a légué, parce qu'on m'a quand même légué beaucoup. Mais la vie a fait que le pied qu'on pose sur la terre-mère, ça a été tardif. Et c'est le Bénin qui me l'a offert, qui m'a accueilli.
Alors, est-ce un poème d'enracinement ou de reconnaissance?
On va dire plutôt de reconnaissance, de gratitude même, oui.
Alors, dans votre test ici, Angelo,
oui,
alors, je vois Africa Grande. Vous voulez dire quoi par là? Ah, c'est Diane.
Voilà. Oui.
Il faut constater que je n'ai pas pu faire la démarcation parce que le dispatching n'a pas été fait pour que je puisse mettre un nom sur les différents poèmes qui meublent sur le recueil de poésie. Et donc, je reviens à vous. Alors, Diane, oui. Africa Grande. Voilà.
Alors, moi, c'est aussi peut-être un jeu de mots, mais voilà, je pensais au Rio Grande, je pense à tout ça. Et pour moi, j'ai tout de suite la vision de la forme de l'Afrique sur la carte du monde, en fait, que l'Afrique est tellement imposante. Et moi, je vois, waouh, Africa Grande, c'est, voilà. Et je pense tout de suite à ça. Et donc, je fais vraiment une ode à la grandeur, à la majesté et à tout ce que l'Afrique représente. Ouais.
Et c'est parce que vous êtes venu seulement au Bénin que tout cela est arrivé, n'est-ce pas? Mais je me trompe.
Non, c'était déjà là. Je faisais déjà certaines choses. Mais c'est vrai que ce voyage pourtant, ce n'était pas un voyage pour écrire ce recueil. C'était un voyage pour un autre sujet, un scénario de court-métrage. Donc, c'est comme ça qu'on s'est même rencontré avec Angelo, parce que je suis aussi scénariste.
Ah,
voilà.
D'accord.
Et au final, c'est l'expérience que j'ai vécue, là, c'était vraiment intérieur, c'était vraiment existentiel, c'est-à-dire c'était pas recherché. Et c'est quand je suis rentrée à New York que j'ai voulu écrire de cette manière, de manière libre. Et en voyant Angelo, donc il a lu le premier, c'était La corde résonne, je lui ai envoyé. Et puis on a commencé à échanger par poème. C'est pour ça qu'on a souvent un poème sur deux, c'est que le poème pense un peu au précédent.
Faites-moi quelque chose sur la corde résonne, je veux voir. Déclamez rapidement quelque chose, proposez-nous quelque chose.
Okay. Alors, la corne résonne, mes idéaux s'envolent. Frère, je te vois entier, portant tes traditions acérées et luisantes, telle l'épée dans la main du guerrier. Plume de nos terres d'Afrique, fierté des dieux de la créativité, par tes écrits de conscience, l'autre rive s'en trouve renforcée. La corne résonne, mes idéaux s'envolent.
Ce midi, sur le chemin de l'humus mouillé, j'ai flâné dans la mémoire des lendemains d'hivernage. entre les eaux qui ruissellent sur la terre noire, il y avait le dessin de ton sourire. Il y avait ton visage sculpté sur les troncs des cocotiers. Il y avait ta chevelure abondante sur les têtes des petites filles du quartier. Je ne te connaissais pas. Immolée.
La corne résonne.
Tes idéaux s'envolent. Fille des eaux, sœur de l'autre bout du monde. La première fois, je t'ai trouvée si belle, si vraie, aussi fertile que Yemanja. Tu as la taille et la grandeur de nos rêves d'ébène. Ce qui pousse dru comme tes cheveux sur les rives de notre vaste imagination. Voilà pourquoi je t'ai appelé Immolée. La corne résonne.
Tes idéaux s'envolent. Mon semblable, gloire à ta plénitude. La grande chante légitimement en toi. Sa mélodie suave retentit, c'est ton âme que l'on voit. L'Afrique se lit droit dans ton regard, tout comme sur ton habit coloré. Ton parler ravive un héritage ethnique. C'est une langue, une identité que l'on reçoit.
Je pense que je vais vous arrêter là parce que je vous vois déjà en transe. Je vous vois déjà emporté. Non, mais c'est bien alors. C'est très bien. Je veux m'intéresser à la corne résonne là. Je lis quelque part l'Afrique se lit droit dans ton regard, tout comme sur ton habit coloré. Ton palais ravive l'héritage ethnique. C'est une langue, une identité que l'on reçoit. J'ai comme l'impression que vous faites un peu allusion, hein, si je peux me tromper, à Sidou Badian qui dit, je cite, « Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. »
Lorsque j'ai écrit ça, je n'ai pas pris cette référence comme image. Ouais. Au moment de l'écriture, non, je n'ai pas forcément pensé à ce passage-là, mais c'est vrai que dans l'intention, vraiment, ça s'en rapproche. Je voulais vraiment penser au côté où tout est authentique et entier quand on est en face d'Angelo et que tout ce que moi j'écris depuis ma position, depuis l'autre rive, lui, il n'a pas besoin de parler, il a juste besoin d'être là, présent, dans son regard, dans son habit coloré. On sait que voilà, c'est ça l'Afrique.
Angelo. Oui. Ils m'ont les flammes éternelles. Oui. Vous revenez en filigrane sur ce passé douloureux, le commerce triangulaire. Ici, vous mettez en avant la présence éternelle des esclaves ayant marché sur la route en latérite vers la Grande Bleue. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont toujours là, ces esclaves-là?
Leur mémoire est présente. Aujourd'hui, il ne s'agirait pas d'effacer ou bien d'oublier, mais le devoir, c'est de garder cette mémoire toujours vive dans nos esprits, savoir qu'on a un passé et mieux reconstruire le futur.
Alors, vous êtes de la diaspora. Qu'est-ce qu'on vous dit d'habitude sur les esclaves? Qu'est-ce qu'on vous raconte là-bas?
Alors, à l'école française, on nous raconte l'histoire d'un angle particulier. On apprend les choses...
Puisque l'histoire n'est pas écrite par les Africains.
Oui, oui.
Donc, il y a des pages qui sont enlevées.
Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est là où l'éducation des parents est très importante. Et vraiment nous rapprocher de notre histoire et de ce que l'on est. Parce que c'est le seul moyen à nous d'aller chercher. Parce que si on reste sur ce que l'on apprend à l'école, on reste vraiment le petit Africain, l'esclavage, etc. Donc c'est là, je pense, où la diaspora, les personnes de la diaspora, dès qu'elles commencent à faire ce travail de recherche, de savoir, ok, quelle est la vraie histoire? Enfin, pas forcément la vraie, mais l'histoire entière, et pas simplement l'axe que l'on nous apprend à l'école ou ailleurs. C'est là vraiment où on commence à avoir un rapport différent, et on comprend que, c'est peut-être pas juste une partie, un cours qui dure 2 heures d'histoire. Non, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus important.
D'accord. Oui. Alors, Angelo Elozazi, c'est l'un de vos textes, est une ode à l'identité, à la mémoire et à la reconnaissance. Est-ce que Zazi est décrite ici comme un olivier qui pousse sur la pierre avec les racines qui traversent l'espace comme une pierre?
Oui. Et en même temps, c'est apparenté à tous ses frères et sœurs qui, depuis l'autre bord, font des efforts pour venir à nous, malgré tout ce qu'ils rencontrent en chemin comme obstacle, qui arrivent à se frayer quand même un passage, comme l'olivier qui poursuit des terrains parfois incertains, des terrains pierreux, mais qui arrive à s'épanouir. Donc, j'ai fait une transposition de cet olivier-là à ses frères et sœurs qui arrivent à nous, qui viennent vers nous et arrivent à trouver la force de traverser tous ces obstacles jusqu'à parvenir à la terre mère.
Alors, on sent un contraire que dans votre texte, vous faites un clin d'œil à Diane qui est ivoirienne de souche et de souche.
Vous êtes mal.
La robe au motif bété. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de voir un frère béninois que vous avez connu ici, qui laisse une trace indélébile dans un livre, tout en vous faisant un clin d'œil?
Bah, déjà, ça montre que cette notion du retour, elle est comprise, c'est-à-dire qu'elle a la dimension continentale. C'est-à-dire que je suis revenue ici, j'ai retrouvé l'Afrique, mais le côté bété est toujours présent. Voilà. Donc le côté BT vraiment est toujours présent. Je reste ivoirienne et je resterai toujours ivoirienne. Et je pense que ça, il a bien compris. Et que c'est voilà que le retour au Bénin, c'est pas dire je viens au Bénin, je m'approprie la culture béninoise, c'est tu sais plus que ça.
Est-ce que Angelo a payé les droits d'auteur aux ayants droit de DJ Vicky? Il n'est plus là. Parce que quand on lit votre texte, il y a une partie où vous avez convoqué une parole de DJ Vicky dans votre chute justement. Est-ce que vous avez payé les droits d'auteur puisque nous sommes dans la phase même?
Et aujourd'hui, puisqu'on en parle du droit d'auteur, journée mondiale du livre et du droit d'auteur, PPJ Vicky, je suis aussi son enfant, son arrière-petit-fils. Ça ne me dédouane pas des obligations envers le patriarche quand tu fais usage de ce qui lui appartient. Donc ça...
D'accord, alors auditeurs et auditrices de la web radio Éducation, amoureux des belles lettres, une pause s'impose. Suivons, écoutons DJ Vicky, toi qui viens de naître.
Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse et que la vie te sourie. Enfants de nos voeux, par ton arrivée, tu nous lis davantage, sois le bienvenu dans notre foyer. Toi qui viens.
C'est de la littérature écrite et orale. Entre la littérature écrite et orale, il n'y a pas de distance. On convoque un test de Vicky pour habiller un tant soit peu, un autre test parce qu'on le trouve important. Retour en studio pour la suite de votre discussion sur le livre « D'une rive à l'autre », une coproduction de Diane Desgris, autrice française d'origine ivoirienne, et de Angelo Orekan, auteur et scénariste béninois. Alors, j'ai prévu que vous puissiez me donner lecture d'un extrait de votre livre. Je vais mettre l'accent rapidement sur Angelo. Donne-moi l'étude de la page 63. Oui, allez-y.
Je remercie la nuit blanche, celle qui porte des lames d'insomnie en dentelle brodée sur sa robe en soie. Mes paupières s'affaissent sous chaque plein quotidien du lundi au dimanche soir. Et je porte sans succès des masques de mâche blanc pour conjurer mes veilles du noir. Noir désir, sommeil verrouillé, les conseils ne portent pas la nuit que le doute en sens. Me voici, pèlerin de minuit, solitaire perdu au milieu des mille imbroglios d'existence. J'interroge votre euphorie, zen danseuse de l'ombre. Comment faites-vous pour flirter avec les sombres turbulences du monde? Moi, je m'enfonce dans le silence d'éveil, sur les marches d'un escalier perdu dans l'espace.
Alors, dites-moi, quel est le message que vous voulez passer par là pour ceux-là qui ne sont pas initiés, pour ceux-là qui ne sont pas admiratifs de la poésie?
Je crois que la poésie, ça s'approprie. Et moi, j'aurai mon idée à moi d'une inspiration du moment. Mais dès que c'est lâché, chaque auditeur en prend possession.
Et là, l'inspiration vous a orienté où finalement?
Bon, ça, c'est venu en fait de mes longues veilles d'écriture, parce que j'ai l'habitude d'écrire la
travail
nuit.
Travail
solitaire la nuit, et très souvent je veille beaucoup, et c'est ça qui m'a inspiré. Ce sont ces moments-là qui m'ont porté vers ce poème.
Alors, je ferai le même exercice avec Diane. Et donnez-moi l'étude de la page 99.
D'accord. Les cendres parlent encore, rien ne s'éteint, tout se transmet, depuis les racines du sycomore. Qu'importe la branche qui nous porte, d'un seul tronc nous germons, des sols riches et fertiles, des forêts humides à la vallée du Nil. Diaspora, née sur le continent, à qui les ambitions du monde ont fait voyager comme le vent, tu portes mille voix. Diaspora, née en Occident, à qui le déracinement et la multiculture fissurent, tu portes mille voix. Continent.
Je vous arrête aussi. Alors, dites-moi, vous aussi, est-ce que vous allez me dire que tout dépend de la compréhension du lecteur ou quel est le message que vous entendez par ces pas-là ?
Alors moi, ce que je veux dire, c'est que la diaspora est multiple. Il y a plusieurs formes de diaspora, et donc plusieurs formes et plusieurs types. Donc celles, les diasporas du travail, les diasporas culturelles, les diasporas de victimes, commerciales, voilà. Et en même temps, on est dans différentes catégories. Il y a ceux qui sont naturalisés, par exemple les Béninois qui sont nés ici, qui sont Béninois à l'extérieur. Il y a ceux qui sont nés à l'extérieur et qui sont peut-être français ou autres, mais qui ont des origines d'ici. Et il y a ceux aussi qui, comme on a beaucoup aux États-Unis, et j'en ai dans mon entourage, des personnes où on lit vraiment qu'ils ont des origines d'Afrique, mais ils sont incapables de dire parce qu'il y a des générations qu'ils ont grandi aux États-Unis. Donc c'est pour dire que la diaspora est multiple et qu'on compte tous et que toutes nos voix comptent, que l'on soit ici ou ailleurs.
Alors en 2024, hein, septembre 2024, la loi numéro 2024-31 établit la reconnaissance de la nationalité béninoise pour les personnes ayant un ascendant africain déporté lors de la traite négrière. Une mesure qui vise à réparer l'histoire et à permettre un retour symbolique des afro-descendants. Angelo, quelle est votre lecture de cette démarche de l'État ?
C'est une démarche très noble. Je ne le dis pas pour jeter des fleurs, mais je le dis parce que...
Vous êtes politique ?
Parce que c'est quelque chose dont je rêvais depuis. J'ai toujours été attiré par ces frères et sœurs de l'autre bout du monde qui portent les mêmes gemmes que moi. Et je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire pour faire un rapprochement, pour qu'on puisse s'unir à nouveau? Parce que ce n'est pas le regard que ceux de là-bas ont de nous.
D'accord. Alors, répondez rapidement parce que le temps est en train de partir. Quelle est votre lecture de cette loi-là?
Oui, alors moi, ma lecture, je considère vraiment cette initiative comme un pas géant pour les diasporas et surtout pour les Afro-Caribéens. Je pense surtout à eux. Et il me semble que ce programme My Origin, c'est ça, a déjà eu beaucoup de succès. Et je vois le Bénin vraiment comme le pays pionnier sur le continent.
Vous jetez des fleurs.
Non, je l'assume. Non, je l'assume parce qu'on n'en a pas conscience. Mais nous, à l'extérieur, beaucoup parlent de retour, ils veulent retourner. Mais quel pays nous propose vraiment les politiques adéquates pour qu'on arrive ?
Quel Bénin ?
Voilà.
Voilà. Alors, dites-moi, comment a été la collaboration rapidement à votre niveau ? Comment ça a été ? En deux phrases, rapidement.
Ça a été fluide et naturel. Je veux dire, ça a duré sur plusieurs mois. On ne s'est pas précipité, on n'avait pas de deadline. C'était avec... Voilà, j'ai écrit, je lui envoie. Peut-être trois semaines plus tard, il me répond par un poème. Si je suis très inspirée, dans les deux heures, il a une réponse. Ou sinon, je pense...
Là même, vous êtes très inspirée. Alors, dites-moi quelque chose. Quelle a été votre collaboration ? Vous n'allez pas me dire la même chose, hein ?
Non, mais ça a été dynamique et très fraternel.
Super. Mesdames et messieurs, chers personnels des mots et des belles lettres, ce sera tout pour ce numéro de votre émission La Vigue littéraire. D'une rive à l'autre, c'est plus qu'un titre, c'est la thèse de ce recueil à quatre mains. Diane Desgris et Angelo Rican nous prouvent que la poésie peut être un dialogue, un territoire commun entre deux voix, deux vécus. À travers ces pages, l'identité cesse d'être une case pour devenir un mouvement. On en sort avec une certitude. Nos racines ne nous retiennent pas. Elles nous donnent l'élan pour naviguer. Ce livre est un tissu de signes assez sur le panafricanisme spirituel. Il parle de reconnaissance, de devoir, de mémoire actif et de la responsabilité de porter le retour, même tardif, comme un acte sacré. Avant de mettre un thème à l'émission, il me plaît de partager cette citation du poète sénégalais Léopold Sédar Senghor. Je cite « La poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde ?» Quant à moi, je dirais à mon tour, le livre Un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur. Jidas Beyanzin Awagbe, Ferdinand Zamba, Jean-Marie Arrotondi, Franklin Bignon, Nadia Kbodjito et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Ferdinand Zamba a assuré la manipulation technique, la coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arrotondi. Au micro, je suis Enoch Guidjimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue littéraire. Comme on le dit à Nadia et Isaba.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.